Enjeux internationaux, Thierry Garcin.
6h46, pardonnez-nous pour cette minute de retard, Thierry Garcin. Les enjeux internationaux nous emmènent aujourd'hui en Chine.
Et rebonjour Émilie Chaudet, en Chine, puisque dimanche et lundi, il y aura le G20 à Hangzhou. Alors le titre, je ne sais pas, Claude Meyer, si vous êtes d'accord pour l'adopter. Donc Claude Meyer, maître de conférences à Sciences Po. J'ai mis le ressac de l'économie chinoise. Est-il durable? Est-ce que le terme vous convient? Vous allez vous en expliquer. La Chine, premier exportateur mondial, deuxième PNB mondial. Elle accuse depuis quelque temps une croissance moindre. Pékin avait l'habitude de dire qu'une croissance de 8% environ lui permettait d'éviter le mécontentement des classes moyennes, pour ainsi dire d'acheter la paix sociale. Qu'en est-il? Et puis il faut peut-être relativiser ce chiffre moyen de croissance, y compris selon les provinces, d'une province à l'autre. Et puis de toute façon, la Chine reste une économie très importante pour la plupart de ses voisins, pour les États-Unis, pour l'Europe, pour l'économie mondiale. Et puis, à l'inverse, la Chine traverse, la Chine évidemment, l'économie chinoise traverse un certain nombre de difficultés. Il y a des mots structurels, on va en reparler. Alors d'abord le G20, est-ce que c'est important pour la Chine?
C'est très extrêmement important pour la Chine, puisque c'est la première fois que le G20 se tient en Chine, et elle compte bien effectivement. Certains shows, on a arrêté les usines, le ciel est magnifique, ça faisait 10, 15 ans qu'on n'avait pas vu ça, mais d'affirmer son rôle dans la gouvernance mondiale et ne plus être accusé d'être un passager clandestin de l'économie mondiale. Donc elle va essayer de pousser un certain nombre de dossiers qui lui tiennent à cœur. Il s'agit évidemment pour tous les leaders du G20 de relancer une croissance mondiale languissante, et la Chine, je pense, va pousser, parce qu'elle est inquiète sur les menaces de protectionnisme qu'on peut avoir ici ou là, en Europe, aux États-Unis, etc., insister sur l'économie, la liberté du commerce international, l'innovation, et aussi quelque chose dont on parle le moins, mais qui est la finance verte. La Chine, le plus grand pollueur du monde, s'achemine aussi pour devenir un leader dans ce qu'on appelle la finance verte, avec la création d'un marché carbone, de partenariats publics-privés, etc., pour financer les réformes industrielles nécessaires qui vont atteindre 600 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Par année.
Alors, Claude Meyer, juste, c'est une question de procédure avant d'aller vers le fond. Et finalement, quelle fiabilité accorder aux chiffres? Et on ne sait jamais très bien sur lesquels s'appuyer, sur ceux du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE. Et elle-même, l'OCDE avait dit il y a une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons, que la croissance, suivie de la croissance chinoise, était minorée par les autorités de Pékin.
Pas, oui, effectivement.
15 ans, pour ne pas faire peur aux autres.
Bon, disons, il y a des choses surprenantes. C'est par exemple que les chiffres nous sortent 15 jours, 3 semaines après, effectivement, que les provinces aient collationné l'ensemble des chiffres, et ça semble surprenant, que parfois les totaux ne correspondent pas tout à fait. Que par ailleurs, si on prend d'autres indicateurs comme la consommation d'électricité, le transport, etc., on voit peut-être pour certains économistes une croissance plus faible et parfois beaucoup plus faible, hein, 3%, 4%. Alors je ne sais pas, la moyenne des économistes dirait que c'est plutôt aux alentours de 5%. Quant aux institutions internationales, leurs calculs sont évidemment fondés sur les statistiques officielles et les chiffres et les prévisions du FMI et de l'OCDE sont à peu près les mêmes que celles du gouvernement chinois.
Alors quels sont les grands points, on va dire, négatifs, et puis on va voir les grands points positifs juste après?
Alors, il faut peut-être voir, rappeler que la Chine est une... Bon, vous parliez de ressac, c'est plus effectivement un changement structurel d'un nouveau modèle, pompeusement appelé par le pouvoir chinois une nouvelle normalité, donc un taux de 6,5-7% va devenir normal, comparé, pas exceptionnel. Ou c'est pas une chute de croissance, ou c'est la nouvelle normalité pour une prospérité moyenne. Donc voilà, ça veut dire que pour les 5 prochaines années, d'après le plan, il faudrait une croissance moyenne de 6,5% pour atteindre l'objectif qui était de doubler le revenu par rapport à 2010. Et là, alors, sur la situation conjoncturelle actuelle, je dirais le premier point qu'il faut dire, c'est qu'on a une stabilisation. Rappelez-vous l'été 2015, voire janvier 2016, la planète entière s'est demandé si le crash chinois allait entraîner une crise mondiale, la baisse du yuan, est-ce que c'était le déclenchement d'une guerre des monnaies, etc. Là, maintenant, on a effectivement une situation qui est stabilisée. Et le cap est tenu, puisque la croissance est de 6,7% pour les 2 premiers trimestres. Donc voilà, voilà la situation conjoncturelle pour arriver effectivement à la réforme de ce modèle chinois qui reposait essentiellement sur l'investissement et les exportations et qui doit maintenant faire face à un certain nombre de réformes. Il s'agit de réduire l'investissement qui est beaucoup trop élevé, il s'agit d'augmenter la part de la consommation et là il y a du frémissement et on peut espérer effectivement que le modèle, cette consommation des ménages qu'on attendait depuis 10 ans commence à se manifester. D'une part parce que le revenu disponible est plus élevé, d'autre part parce que la classe moyenne s'élargit. Développer les services, etc. On peut voir, c'est spectaculaire, les leaders Alibaba, Tencent, etc. Il y a un développement tout à fait considérable de la nouvelle économie en Chine actuellement. Réduire la part de l'industrie par rapport aux services, mais surtout la faire monter en gamme. Donc là, il s'agit de l'innovation, etc. Et donc d'investir très fortement en recherche et développement et surtout que l'État lâche la bride au secteur privé, alors que pour l'instant, effectivement, la majorité des projets de recherche-développement sont faits par les grands groupes publics. Donc pour revenir à votre question, on commence par les forces ou les faiblesses. Disons, les faiblesses actuelles, on a effectivement un gros problème de surcapacité, que dans les industries lourdes, que ce soit l'acier, le ciment, etc., dont on subit évidemment les conséquences parce que la Chine exporte ses surcapacités en direction de l'Europe, des États-Unis, etc. D'où effectivement la position européenne qui a été effectivement de frapper notamment l'acier chinois de taxes de 35%, ce qui est relativement modeste par rapport au taux américain, mais fait nouveau rétroactivement. Sur capacité industrielle, il faut donc que la Chine, enfin le pouvoir, réduise considérablement, notamment dans le secteur public, où ces grands groupes agissent dans les industries lourdes. Le second point noir.
Ça va passer très vite, malheureusement, on arrive déjà au terme de l'émission. Juste second point noir.
L'endettement des entreprises.
Et des créances douteuses de la part de l'État qui
vont venir. Enfin, pour l'instant, c'est encore soutenable. Bon. Mais évidemment, qui dit endettement excessif des entreprises dit incapacité de paiement et ultérieurement créances douteuses.
Et alors, quelques points durables, points forts durables.
Des points forts, alors là, je vais très vite. Les fondamentaux économiques sont quand même plutôt bons, le taux d'épargne élevé, la situation budgétaire, donc il y a des marges de manœuvre. On a quand même une formidable machine industrielle et commerciale qui produit chaque année l'équivalent du PIB de la Suisse, 6,5% du PIB de la Chine. Ça veut dire que la Chine, chaque année, ajoute le montant du PIB de la Suisse. Un réseau d'infrastructures considérables.
Démesuré parfois, pharaoniques.
Absolument. Mais qui, à terme, en fonction de l'urbanisation, sera véritablement rentable, espérons-le. À terme, un gisement énorme de consommateurs, une montée en gamme assez rapide dans certains secteurs. La grande nouvelle, c'est quand même l'ordinateur le plus rapide au monde actuellement est chinois et fait nouveau avec des composants chinois.
Voilà, et vous allez être obligé de revenir parce qu'on on a fait qu'est-ce qui c'est ce dossier qui est évidemment très lourd, mais qui est très utile évidemment d'avoir ce point de vue synthétique. On peut vous réécouter ou télécharger Claude Meillat. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po, donc sur franceculture.fr. Et puis nous parlerons donc lundi de la Russie sur le plan de la politique étrangère, Émilie.